À voix nue, Christophe Onodibio.
Salman Rushdie, écrivain.
Cinquième épisode, le couteau et le miracle. Bonjour Salman Rushdie.
Hello again.
Nous avons parlé hier de ces années new-yorkaises à partir de l'an 2000 où vous retrouvez un refuge, une liberté, une envie de combattre aussi, où la fatwa devient un souvenir lointain. Mais alors il se passe quelque chose d'absolument dramatique, terrible, d'imprévu. Le 12 août 2022, alors que vous vous rendez à Shotoka dans l'état de New York pour y donner une conférence, un homme se jette sur vous et en 27 secondes vous frappe à la main, au cou, à la poitrine, au visage et à l'œil, vous faisant perdre un œil. D'où ce vert noir de vos lunettes qui vous donne, comme dirait Roberto Saviano, un côté pirate. 27 secondes, c'est très long.
You can do a lot of damage in 27 seconds. I was trying to think what else takes.
On peut faire beaucoup de dégâts en 27 secondes. J'essayais de penser à ce qu'on pourrait faire d'autre en 27 secondes. Bien, deux choses. La première, c'est que vous pouvez lire un sonnet de Shakespeare.
Religious, you can read the Lord's Prayer.
Si vous avez des sentiments religieux, vous pouvez lire le Notre Père. C'est assez long. Être seul avec un homme armé d'un couteau qui essaie de vous tuer. Pendant longtemps, je n'étais même pas certain du nombre de coups qu'il avait
donnés.
Je pense qu'en fin de compte, j'ai bien compté. Je pense qu'il y a eu 12.
Vous aviez confié que vous sentiez que la fatwa était derrière vous, que d'autres gens étaient ciblés. Vous vous étiez manifestement trompé.
Oui, c'est difficile. De toute évidence, ce jeune homme a été influencé d'une manière ou d'une autre pour commettre cet attentat. Il a 24 ans. Il n'était même pas né lorsque les versets sataniques ont été publiés. D'après ses propres dires, il ne l'a jamais lu. Il a déclaré dans une interview qu'il n'avait lu que deux pages de ce que j'avais écrit. Il n'a pas dit quelle page. Il a dit qu'il avait vu quelques interviews de moi à la télé, sur YouTube. Ça lui a suffi pour commettre un meurtre. C'est ça qui m'a intrigué et intéressé. J'ai dit à mes éditeurs que si j'écrivais un personnage de fiction qui décide de commettre un meurtre sur la base d'une si petite motivation, mais c'est pas convaincant. Il faut plus de motivation que cela pour commettre un crime de cette ampleur. Et pourtant, il semble qu'avec cette motivation banale, il était prêt à... C'est quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a pas d'antécédent. Passer de zéro à meurtre, c'est vraiment un saut dramatique. Eh bien, mon sens romanesque a été intéressé.
Vous avez pensé à quoi, justement, vous qui aviez oublié justement ces menaces, qui viviez absolument librement, normalement, vous avez pensé à quoi en voyant ce jour-là, par cette journée en plus très très ensoleillée, cette forme noire surgir de dans l'amphithéâtre et se jeter sur vous?
Yeah, I mean, he was he came to the side of the stage and then there were three steps or something. The stage was slightly raised.
Il est arrivé sur le côté de la scène et là, il y avait trois marches, quelque chose comme ça. La scène était légèrement surélevée et s'est mis à courir très vite. J'étais assis sur l'une des deux chaises qu'il y avait sur le plateau, comme ces deux chaises ici. Et j'attendais d'avoir cette conversation avec mon ami Henry Rees. Et j'ai vu cet homme courir. Et je me suis levé. Juste au moment où je me suis levé, il est arrivé. Et il m'a frappé très fort sur le côté de la mâchoire, du côté droit. Au début, j'ai cru qu'il m'avait donné un coup de poing. Je pensais qu'il m'avait frappé plutôt que... Je ne m'étais pas rendu compte qu'il tenait un couteau dans la main. Et ensuite, il y avait beaucoup de sang. Je pouvais le voir couler sur mes vêtements. Et puis il a commencé à me frapper encore et encore. Je suis tombé. Il était au-dessus de moi. Et alors, cette chose extraordinaire s'est produite. Un acte de courage collectif. qui m'a sauvé la vie. Tout d'abord, Henry, qui était assis de l'autre côté de la scène, a vu ce qui se passait. Henry, c'est pas un jeune homme, il a plus de 70 ans. Il a traversé la scène en courant, a sauté sur le gars et essayé de l'écarter de moi. Et puis, des membres du public se sont ensuite approchés et ont apporté leur aide. Je ne sais pas exactement combien, mais j'étais conscient qu'il y avait une petite foule de personnes du public qui étaient littéralement sur lui, le maintenant au sol. Si ça ne s'était pas produit, je ne serais pas ici en train de vous parler.
Vous vous êtes dit, je vais mourir, je suis en train de mourir?
Yes, I thought I was dying. Yeah, I did. I think... there was a lot of blood, you know.
Oui, j'ai cru que j'allais mourir. Oui, je l'ai cru. Il y avait beaucoup de sang. J'étais allongé et je pouvais voir une grande quantité de sang sur le sol. J'ai pensé que j'étais en train de mourir. Ce qui était étrange, c'est que je l'ai pensé objectivement, d'une manière très factuelle. Ce n'était pas quelque chose d'émotif. Je me disais simplement que c'était ce qui était en train de se passer.
Vous expliquez dans le couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat, hein, ce texte que vous publiez en ce printemps 2024, que ce qui a été le plus marquant pour vous, c'est d'être tiré, ramené en arrière, dans le temps, vers un passé lointain, et qu'il y a 20 ans, vous avez écrit un roman dont le titre était Chalimard le clown, et ce livre était né d'une simple image, qui était une image d'un mort allongé au sol alors qu'un deuxième homme se tient au-dessus de lui, son assassin, avec un couteau ensanglanté à la main. La littérature, encore une fois, avait le pouvoir de prévoir ce qui s'est passé.
Yeah, it's very strange that book was written and published in something like 2005.
Oui, c'est très étrange. Ce livre a été écrit et publié en 2005, quelque chose comme ça.
To have that image in my head from which the novel arose.
Mais j'ai simplement eu en tête l'image d'une attaque au couteau qui a donné naissance au roman. Et c'était très étrange d'avoir cette image 17 ans avant que ça ne se produise.
Donc, encore une fois. Votre livre, je voudrais qu'on s'arrête sur le titre, s'intitule Le couteau. Et ce qui est très intéressant pour parler de littérature, parce que c'est un texte extrêmement puissant littérairement, c'est que pour vous, le couteau, c'est aussi une manière de décrire le stylo. Je vous cite, hein, Salman Rushdie, « Le langage était un couteau capable d'ouvrir le monde, d'en révéler le sens, les mécanismes internes, les secrets, les vérités. Il pouvait trancher dans une réalité pour passer dans une autre. Il pouvait dénoncer la bêtise, ouvrir les yeux des gens, créer de la beauté. Le langage était mon couteau. » Est-ce que ces réflexions-là vous ont aidé à conjurer la violence de l'assassinat au couteau, de vous dire, moi aussi, j'utilise un couteau?
Je me suis dit que j'étais dans un combat au couteau. Si vous êtes dans une bagarre au couteau, c'est utile d'avoir un couteau. Je me suis dit, j'ai jamais été le genre de personne qui se dispute ou qui se bat dans la rue, dans un bar. Il s'agit de quelqu'un qui essaie de vous tuer, c'est une sorte de dispute. J'ai pensé que la façon de répondre à cela, la façon de combattre ce couteau, c'est d'avoir une arme à moi. Et mon arme, c'est le langage.
Le
livre s'appelle Le couteau. Mais à mon avis, c'est aussi mon couteau. Le livre s'appelle Le couteau parce que c'est la chose qui m'a attaqué. C'est aussi une description du livre que vous tenez dans votre main. Le livre lui-même est une arme.
Au départ, vous n'étiez pas sûr de vouloir écrire ce livre. Hein. Vous aviez d'ailleurs publié vos mémoires Joseph Anton à la troisième personne. Là, c'est un texte qui est écrit à la première personne. C'est une façon, écrire ce texte à la première personne, de reprendre le couteau?
Oui, je pensais qu'il fallait écrire à la première personne, parce que si quelqu'un vous transperce d'un couteau, c'est très personnel. Vous ne pouvez pas écrire sur ce sujet à la troisième personne.
Vous arrivez encore à en rire, Salman Rushdie. Toujours, l'humour est là, toujours, même dans le tragique.
Je me suis dit, non, bah, il faut que ce soit à la première personne. Je ne voulais pas de distance, parce qu'une attaque au couteau est très intime. Mais je voulais qu'il y ait une qualité littéraire. La question, c'était, oui, bien sûr, nous pouvons avoir une conversation, et je peux vous parler de l'attaque au couteau. Ça s'est d'abord passé comme ci, puis comme ça, et puis c'est une troisième chose. Mais ça, c'est pas un livre.
A statement.
That's not enough.
C'est une déclaration.
It's not enough.
Ce n'est pas suffisant.
The question then is, what is the book?
La question donc est de savoir quel est le livre. Comment transformer cet événement, cet événement presque fatal, en quelque chose que les gens prennent le temps de lire. Comment en faire quelque chose d'intéressant pour des raisons qui vont au-delà des détails de l'attentat?
On va en parler parce que vous convoquez aussi tout un tas d'écrivains, notamment Samuel Beckett, on y reviendra. Diriez-vous, Salman Rushdie, que votre guérison a été un miracle?
Well, people tell me this, you know, I mean, that... It was very unlikely that I was going to survive.
Les gens me l'ont dit.
And when the doctors at the hospital,
il était très peu probable que je survive.
Began to believe that I was going to survive.
Lorsque les médecins de l'hôpital,
they told me, one of them told me that
ont commencé à croire que j'allais survivre, l'un d'entre eux m'a dit que lorsque j'ai été transporté de l'hélicoptère à l'hôpital,
they didn't believe they could save me, you know, because the wounds were so serious.
Ils ne pensaient pas pouvoir me sauver.
Fortunately, they were wrong.
Parce que les blessures étaient si graves.
But it was as close as that.
Heureusement, ils avaient tort. Ils m'ont sauvé, mais il s'en est fallu de peu.
Many people said to me that your survival is a miracle, and I.
Beaucoup de gens m'ont dit, ah, votre survie est un miracle.
I understand what it means because it means that it was improbable.
Je comprends ce que ça signifie. Ça veut dire que c'était improbable. Il était beaucoup plus probable que je ne survive pas.
Peut-être que finalement, quand vous étiez enfant et que vous regardiez la Voie lactée en pensant à ce conte Samudra Muntan, où les dieux expriment, on en a parlé au début de notre conversation, expriment la Voie lactée pour en sortir l'élixir d'immortalité, peut-être que finalement, une goutte voilà, est tombée dans votre bouche.
Une petite goutte, peut-être. Non, c'est étrange parce que moi, je ne crois pas aux miracles. Ce que je dis quelque part dans mes livres, c'est que je dis que mes livres y croient.
L'immortalité par les livres, c'est quelque chose qui est important pour vous, Salman
Rushdie?
Ce n'est pas l'immortalité pour moi qui est importante. Ce qui est important, c'est l'immortalité du livre. Je pense que si vous écrivez le genre de livre que j'écris, l'une des raisons pour lesquelles je les écris, c'est l'espoir qu'ils durent, qu'ils dureront au-delà de votre propre vie, que les générations à venir les trouveront encore dignes d'être lus.
Most books do not survive.
La plupart des livres ne survivent pas. L'objectif est d'écrire des livres qui durent. Et espérons que un ou deux d'entre eux y parviendront.
L'autre miracle, c'est les tonnes d'amour que vous avez reçues. Comme si les gens qui disaient que la fatwa, vous en aviez bien profité pour devenir célèbre, pour gagner de l'argent, s'étaient soudainement trouvés un peu bêtes, un peu idiot devant le fait que ça s'était réellement passé, alors qu'il il pensait quoi? Que la fatwa était une fiction?
Non.
Suddenly, it was very moving, the amount of,
c'était très émouvant, la quantité de soutien et d'affection
came in my direction at that moment.
Qui m'ont été apportées à ce moment-là.
I guess it's the difference between,
je suppose que c'est la différence entre ne pas être attaqué et être attaqué.
When you're attacked, people take it more seriously.
Lorsque vous êtes attaqué, les gens prennent la chose plus au sérieux.
All that sympathy,
toute cette sympathie a été énorme. C'était important pour moi de la ressentir.
Made me feel stronger.
Et ça m'a permis de me sentir plus fort.
Elisa, votre épouse, hein, dont vous faites réellement un portrait magnifique, hein, dans le livre, qui a été là absolument tout le temps, elle fait quelque chose que vous avez accepté de faire avec elle. Il y a le livre, mais il y aura un documentaire. Mm-hmm. Elle vous a filmé pendant cette guérison, et même des moments particulièrement difficiles où votre œil était sorti de son orbite. Hein. Vous ne nous épargnez aucun détail là-dessus. Pourquoi avoir accepté et décidé de faire ce documentaire, c'est de témoigner face à une caméra?
Yeah, it was my idea.
C'était mon idée.
I, I,
Pendant deux ou trois jours, je n'étais pas en état d'avoir des idées. Mais quand je suis un peu revenu à moi-même, je lui ai dit que nous devrions faire un enregistrement. C'était trop important pour ne pas le documenter.
Oui, mais le livre le documente ça. Il fallait l'image en plus.
Oui, parce que à ce moment-là, je ne ressemblais pas à ça.
For a long time, even while we were making this record, documentary record, she would not let me look in the mirror.
Même pendant que nous étions en train de faire ce documentaire, elle ne m'a pas laissé me regarder dans un miroir. Il s'est écoulé des semaines et des semaines avant que, peut-être même un mois, avant que je ne me regarde dans un miroir. Je pense qu'elle avait raison, parce que c'était horrible. Et puis, c'était encore plus important pour moi quand elle a finalement montré ce qu'elle avait filmé. C'était encore plus important pour moi que nous l'ayons fait, pour que les gens puissent le voir.
Il y a une chose qui est passionnante dans le livre, c'est qu'au fond, on vous voit vous lever et vous êtes droitier et vous levez la main gauche pour vous protéger. Il y a la peur, comme si vous vouliez protéger votre main d'écrivain. Mais ce qui est encore plus fascinant, terrible, c'est que c'est pas la main qui est en question, c'est l'œil. Ce qui vous détruit vraiment, c'est d'avoir... Peut-être, parce qu'à l'époque, vous ne savez pas qu'il est perdu. Maintenant, il est perdu, mais vous ne le savez pas. C'est de perdre cet œil. Et vous convoquez un certain nombre d'écrivains, vous convoquez des nouvelles sur la cécité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains. Borges est devenu presque aveugle. Homère, si jamais il a existé, était aveugle. Pourquoi cette peur de perdre la vue? Est-ce que c'était la peur de devenir moins voyant, comme disait Rimbaud, ou plus prosaïque?
No, it's always been for me.
Ça a toujours été pour moi la grande peur. Et pour répondre à votre question, lequel de vos sens seriez-vous prêt à perdre? La vue est celle que j'aurais le plus peur de perdre. Dans le roman de George Orwell, 1984, il y a cet endroit terrifiant qui s'appelle la salle 101. Lorsqu'on vous introduit dans la salle 101, ce qu'on y découvre est la pire chose au monde. Et la pire chose au monde est différente pour chacun. Pour Winston Smith, l'anti-héros de 1984, la pire chose au monde, ce sont les rats. Et ce qu'il vit dans la chambre 101, ce sont les rats, et ça le détruit. Pour moi, ce qui serait dans la chambre 101, c'est la cécité. Et je venais d'écrire un roman dans lequel l'héroïne est aveuglée.
Victory City, Pampa Campana, elle se fait effectivement.
Et la raison pour laquelle cela se trouve dans le roman, c'est parce que c'était ma peur. Alors je l'ai mise dans le roman. C'est une façon de dire, voilà ce qui arrive. Ce qui lui arrive, c'est une écrivain, c'est une poétesse.
Le roman que vous veniez de terminer juste avant l'attaque, en plus. Elle se fait crever les yeux, effectivement.
Oui, 10 jours avant l'attentat, j'avais terminé les dernières révisions du livre.
Pourquoi avoir décidé d'écrire ce dialogue imaginaire avec votre assassin? Vous appelez ça votre moment Samuel Beckett. Pourquoi?
Beckett a également été poignardé par quelqu'un dans la rue. Un proxénète, en fait. Il a failli en mourir. Ce que j'ai lu, c'est que James Joyce a contribué à payer sa chambre d'hôpital. Et puis, il est allé confronter l'agresseur au tribunal lors du procès. Il lui a dit, pourquoi avez-vous fait ça? Et le proxénète a répondu,
c'est pas monsieur, je m'excuse. And I thought, that's a very banal answer.
C'est une réponse très banale.
Because it tells you nothing.
Parce qu'elle ne vous dit rien. J'ai pensé qu'il était probable que si j'étais confronté à la personne qui m'a attaqué et que je lui demandais pourquoi cette personne l'a fait, j'obtiendrais une réponse banale. Ça ne me dirait rien. Il ne me dirait rien que je ne puisse deviner. Alors j'ai pensé, au lieu de cela, je suis romancier. Mon travail consiste à pénétrer dans l'esprit d'autres personnes, créer des personnages qui ne me ressemblent pas. Je me suis dit que j'allais utiliser mon art pour le comprendre et m'imaginer dans sa tête. Et je pense qu'en m'imaginant dans sa tête, je le connaîtrais mieux que si je le rencontrais. C'était l'idée.
Vous dites, Salman Rushdie, c'est souvent, hein, c'est pas depuis cet attentat contre vous du 12 août 2022, vous avez souvent dit, nous vivons une bataille des récits, une bataille des narrations. Mm-hmm. Est-ce que mettre en scène ce dialogue imaginaire, où c'est vous, en fait, qui l'interrogez,
yes.
C'était une façon de reprendre le pouvoir aussi par les mots?
Yes, of course.
Oui, bien sûr. C'est une façon de dire, ceci est mon récit. You
know, you're in my story now.
Tu es dans mon récit maintenant.
I'm not in your story, you're in
ce n'est pas moi qui suis dans ton récit, tu es dans le mien.
Nous vivons aujourd'hui, Salman Rushdie, une bataille des narrations, hein, comme vous dites, et je voudrais que l'on reprenne votre discours du Pen Club que vous avez prononcé avant l'attentat, hein, le 13 mai 2022, je vous cite, « L'enjeu est d'écrire de meilleures fictions que les autres. Nous sommes engagés dans une guerre mondiale entre les récits, une guerre entre des versions incompatibles de la réalité, et nous devons apprendre à y faire face. Qui sont les autres contre lesquels il faut écrire de meilleures fictions ?»
Well, the moment when I made those remarks,
le moment où j'ai fait ces remarques, c'était un événement aux Nations Unies. Au cours duquel nous avons discuté de la fonction possible de la littérature face à de telles choses. Et c'était au début de la guerre en Ukraine. Que pouvaient dire ou faire les écrivains pour être utiles? Peut-être rien. Et c'est ce que j'ai répondu à cette question. Ce qui se passe n'est pas simplement une guerre d'hommes, de chars, de fusils. C'est aussi une guerre d'idées. Le président russe revendique un droit territorial sur un pays qui n'est pas le sien. Et il prétend que les dirigeants de ce pays sont des nazis, même si ce président est juif, le président de l'Ukraine. Et face à cela, il y a le récit ukrainien, qui est un récit de liberté. Et ces récits sont en guerre, tout en tant que les chars. Bien sûr, l'une des tragédies est que le peuple russe, dans une large mesure, a cru ce que lui disaient ses dirigeants. Les récits sont profondément ancrés.
Et les écrivains ont leur rôle à jouer dans cette bataille de récits?
Yes, because I think, you know,
oui, parce que
we can tell the truth.
Je pense que nous pouvons dire la vérité.
You know, somebody has to.
Quelqu'un doit le faire.
And we can argue,
nous pouvons
fight, and we can also
argumenter, nous battre,
add our voices,
mais nous pouvons aussi ajouter nos voix aux voix des écrivains et des journalistes de l'intérieur et les rendre plus forts en y joignant les nôtres.
Vous ouvrez ce texte, Salman Rushdie, par une citation de Beckett dans son essai sur Proust en 1930. « Nous sommes différents, nous ne sommes plus que nous étions avant la calamité » d'hier. Est-ce que vous êtes différent de celui que vous étiez avant l'agression?
Oui, je pense que je ne suis plus le même. Une des choses qui s'est produite en même temps que l'attaque dont j'étais victime, c'est que mon ami, l'écrivain anglo-pakistanais Hanif Qureshi, a lui-même été victime d'une catastrophe. Il a fait une chute et s'est retrouvé paralysé. Je suis allé le voir à Londres la semaine dernière. Et l'une des choses qu'il m'a dites, c'est qu'il avait perdu son sens de l'humour. C'est un écrivain très drôle. Il a dit qu'il ne pouvait plus écrire de fiction. Il n'avait plus le sens de l'humour. Je lui ai répondu que j'espérais qu'il se trompait. Dans mon cas, c'est pas ça. Je pense que j'ai toujours mon sens de l'humour. Ce qui se passe, c'est que si vous êtes très très proche de la mort, aussi proche que vous pouvez l'être sans mourir, ça change votre rapport à la vie. D'une part, on apprécie davantage chaque jour. D'autre part, vous devenez plus conscient de la fin. Vous êtes beaucoup plus conscient que la fin est juste là et qu'aucun d'entre nous n'y échappera. Elle est juste de l'autre côté de l'horizon. Milan Kundera est mort pendant que j'écrivais ce livre. Je le connaissais un peu. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Il m'a dit que tous ses livres auraient pu s'intituler « L'insoutenable légèreté de l'être ». Ça aurait pu être le titre de chacun de ses livres. Son idée était que il n'y a pas de deuxième chance. Dans la vie, on n'a qu'une seule chance. On ne peut pas faire de brouillon révisé. Chaque jour, voilà, c'est arrivé, et c'est parti. J'ai senti que, d'une certaine manière, moi j'ai eu une deuxième chance. J'ai eu une deuxième chance dans la vie, alors que selon toute logique et probabilité, je n'aurais pas dû la voir. Voilà, me voici, en train de vous parler. La question qui se pose, à laquelle je dois réfléchir tous les jours, si on vous donne cette deuxième chance, mais qu'est-ce que vous en faites? Comment l'utilisez-vous? Comment tirer le meilleur parti? Comment utiliser le temps qui vous est imparti?
Est-ce pour vous, c'est écrire encore?
Oui, bien sûr. C'est une question que je me pose tous les jours et je ne connais pas complètement la réponse.
Il y a aussi l'amour, Salman Rushdie, parce que c'est vraiment presque la morale de cette histoire. C'est l'amour. Et je voudrais vous citer pour terminer, reprendre ce beau discours du Pen Club, toujours le 13 mai 2022, où vous écrivez « Nous pouvons rivaliser avec Orphée et chanter face à l'horreur, chanter sans arrêt jusqu'à ce que la marée s'inverse et que des jours meilleurs adviennent. L'avantage, c'est que vous, l'Orphée Salman Rushdie, il a encore son Eurydice. Elle s'appelle Elisa. »
C'est vrai. La chose la plus bizarre à ce sujet de ce livre étrange, c'est que ça se termine par une histoire d'amour. Ça commence comme une histoire de mort et ça finit comme une histoire d'amour. Et elle est capable de raconter des histoires par elle-même. Mais dans ce cas particulier, j'ai raconté l'histoire pour elle. Elle est très, très, très importante pour ce livre. J'ai toujours pensé que c'était un livre sur des gens libres. L'homme qui a tenté de me tuer et la femme qui m'a sauvé la vie. C'est ce que j'ai écrit. J'ai pensé à la fin, les deux forces en jeu dans ce livre. L'une, c'est la force de la mort, de la haine. Et l'autre, c'est la force de l'amour, qui est aussi la force de la vie. Et ces deux choses luttent l'une contre l'autre au moment décrit dans le livre.
Et
l'amour triomphe de la mort.
C'est une belle morale, finalement.
Oui, c'est aussi loin que je peux aller avec la morale de l'auteur. L'amour triomphe de la mort.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Sébastien Royer, traduction Michel Zlotowski, réalisation Angélique Thibault, une série de Christophe Onodibio avec le concours du magazine Le Point, à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France.